Chers frères et sœurs, depuis dimanche dernier, nous avons 10 nouveaux saints, dont 3 Français, le plus connu étant Saint Charles de Foucault, cet ermite converti. Et voilà qu'aujourd'hui, à Lyon, l'Église nous propose un nouveau modèle de sainteté en la personne de Pauline Jaricot, une laïque passionnée pour le salut du monde, fondatrice du Rosaire vivant et de plusieurs œuvres missionnaires. Ses canonisations et béatifications nous rappellent notre vocation fondamentale qui est la sainteté. Je vous renvoie au Deuxième Concile du Vatican dans sa Constitution sur l'Église. L'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état de vie ou leur rang. Et on pourrait dire que cette exigence est d'autant plus forte pour les ministres ordonnés. Alors priez bien pour que vos prêtres soient des saints, et je vous assure que nous prions chaque jour pour que vous le soyez. Parce qu'un chrétien qui n'est pas des saints est un chrétien, on pourrait presque dire, raté ou médiocre. Dans la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, nous avons entendu comment, très tôt, l'Église s'est trouvée confrontée à une question importante. Les païens qui se convertissaient au christianisme devaient-ils être circoncis? Comme cette question suscitait des dissensions au sein de l'Église, saint Luc parle de troubles et de désarroi. Les apôtres et les anciens se réunirent à Jérusalem pour en discuter. Frères et sœurs, c'est là un moment très important de l'histoire de l'Église, car nous avons affaire au tout premier concile œcuménique, modèle de tous les autres. Dans le passage que nous avons écouté, nous n'avons pas la teneur des débats. Je vous invite à reprendre le chapitre 15 des Actes des Apôtres chez vous, vous trouverez ces débats, si je puis dire. Nous avons seulement la décision prise par les apôtres et transmise à toutes les communautés chrétiennes. Nous pouvons en retenir deux expressions caractéristiques de tout concile ou synode digne de ce nom et de l'enseignement du magistère en général. Il y a d'abord l'expression « à l'unanimité ». Nous avons décidé « à l'unanimité », écrivent les apôtres et les anciens. Ceci est capital. La logique d'un concile n'est pas celle à laquelle nous sommes habitués dans les démocraties parlementaires. La majorité l'emporte, parfois une majorité très courte. Non, un concile recherche l'unanimité entre les participants. Il vise un consensus et par conséquent, il prend en compte toutes les positions. Pour vous en convaincre, je vous invite à aller voir les résultats des votes finaux du Deuxième Concile du Vatican. On est stupéfait de voir que pour plusieurs milliers de pères conciliaires, il y a seulement parfois une poignée de voix contre. Quelquefois, c'est de l'ordre de quelques dizaines, mais qui représentent même pas 1%. Donc, il y a vraiment un souci de consensus. Deuxièmement, c'est ici qu'intervient la seconde expression caractéristique d'un concile. L'Esprit Saint et nous-mêmes. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, affirment les apôtres et les anciens. Frères et sœurs, l'unanimité à laquelle les pères réunis en concile parviennent finalement n'est pas une œuvre humaine. Elle n'est pas le résultat de tractations, de négociations ou de compromis. Elle est l'œuvre de l'Esprit Saint, qui est un esprit d'unité, d'harmonie et de paix. Une sorte de chef d'orchestre qui fait en sorte que tous les instruments puissent jouer leur partition dans l'harmonie. Dans l'Évangile, nous avons entendu ces paroles de Jésus à ses disciples. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Et dans un autre passage de l'Évangile de Saint Jean, Jésus leur dit de même, l'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Relisons souvent ces chapitres 14 à 16 de Saint Jean, le fameux discours après la scène que nous lisons durant ces dimanches, du 4e au 6e dimanche de Pâques. Ces paroles permettent de comprendre pourquoi l'Église, par la voix du pape et des évêques, continue d'enseigner avec autorité au nom du Christ. Cet enseignement, qu'on appelle le magistère, loin d'être un carcan, est une grande lumière qui éclaire notre vie. En effet, il arrive souvent que se posent à notre époque des questions d'ordre moral inconnues des générations passées. Ainsi, depuis une cinquantaine d'années, on a assisté en France et dans de nombreux pays du monde à un changement radical de l'attitude générale et de la législation concernant le respect de la vie humaine. Prenons pour la France le cas de l'avortement. Il y a 50 ans, en vertu d'une législation datant des années 1920, la société le considérait comme un crime. Aujourd'hui, non seulement il est légal pendant les premiers mois de la grossesse, voire jusqu'au dernier jour dans le cas d'une malformation du fœtus, mais il est remboursé par la collectivité et reconnu comme un droit fondamental de la femme, selon une loi votée en 2014. Face à ce basculement, le Saint-Pape Jean-Paul II, et pas seulement lui, tous les papes, mais Jean-Paul II a pris la parole avec vigueur, particulièrement dans son encyclique Evangelium Vitae, l'Évangile de la vie, dont je vous recommande vivement la lecture. Permettez-moi de vous en citer quelques passages particulièrement éclairants. D'abord, ce principe fondamental. La vie de l'homme vient de Dieu. Elle est son don, son image et son empreinte, la participation à son souffle vital. La vie et la mort sont donc dans les mains de Dieu. Puis une réflexion qui s'appuie sur les observations scientifiques les plus incontestables. Dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père ni celle de la mère, mais celle d'un nouvel être humain qui se développe pour lui-même. Dès la fécondation commence l'aventure d'une vie humaine. Au cœur de l'encyclique, le Saint-Père formule ce principe général, s'appuyant sur la Sainte Écriture et toute la tradition de l'Église. La vie humaine est sacrée et inviolable dans toutes les phases de son existence, même dans la phase initiale qui précède sa naissance. La vie humaine est sacrée et inviolable dans toutes les phases de son existence. À ce propos, frères et sœurs, il est intéressant de noter qu'en Corée, pays qui n'est pourtant pas de tradition chrétienne, on rajoute toujours un an à l'âge d'une personne, prenant ainsi en compte la phase intra-utérine de sa vie. Notre vie a commencé 9 mois avant notre naissance, n'est-ce pas? Frères et sœurs, éclairés par le magistère de l'Église, soyons de ceux qui accueillent avec joie l'Évangile de la vie et qui en témoignent avec courage, afin de contribuer à l'avènement d'une civilisation de la vérité, de l'amour et de la vie.